Ce matin, on est dans Juges chapitre 10, et pour ceux qui se joignent à nous dans cette série, nous sommes dans une série qui s'appelle « Transmettre la foi dans une génération chaotique ». Et oui, si vous êtes un peu douteux sur le titre, s'il y a eu une erreur, non, il n'y a pas d'erreur, ça peut paraître vulgaire. Effectivement, « jeter le fils de pute », alors on n'entend pas souvent ce genre d'expression-là le dimanche matin à l'église, mais c'est ce que le texte biblique nous dit. Donc, j'ai décidé de ne pas trier, de ne pas changer les mots. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans un vrai monde où ce que les gens ont rejeté le Seigneur, bien, le monde s'en va vers le chaos. Et quand on s'enligne vers le chaos, toutes sortes de leaders sont là, des hommes qui n'ont pas toujours de grand caractère spirituel, de grand caractère moral. Et souvent, même l'absence de bons leaders est un témoignage d'un éloignement de Dieu. Et c'est ce qu'on voit en Israël. De plus en plus on avance dans le livre, de plus en plus on voit des leaders qui sont un peu questionnables ou très questionnables au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau de leurs choix, leur manière de vivre et de la société. Et les leaders sont souvent un reflet de la société elle-même, n'est-ce pas? Si on chiale contre nos leaders, posons-nous la question, est-ce qu'on est en train de récolter le type de leader pour lequel on a semé? Si on chiale que des leaders sont corrompus, est-ce qu'on est corrompu dans la société et on tolère cela et qu'on ferme les yeux? Il ne faut pas se poser des questions si dans la direction du pays, il peut y avoir les mêmes manières de vivre. C'est un reflet l'un de l'autre, n'est-ce pas? Décadence, et c'est ce qu'on voit en Israël. Décadence, et c'est un homme peu moral qui va diriger le peuple. Vous allez voir que ses choix reflètent son manque de moralité. Il connaît son histoire, mais il connaît mal le Dieu de l'histoire à bien des égards. Mais malgré tout, le Seigneur va l'utiliser pour faire du bien en Israël. Pas parce qu'il le méritait, pas parce qu'il était meilleur que les autres. Le Seigneur est juste gracieux. Et c'est là qu'on voit un mélange de grâce et de chaos. Et quand on voit un mélange de grâce et de chaos, vous savez ce que ça fait? Ça nous amène des grosses questions morales. Dieu, y es-tu d'accord avec cette affaire-là? Puis là, le texte ne dira pas nécessairement une opinion sur le sujet. On constate juste que c'est quelque chose qui est contre la parole de Dieu, la loi de Dieu, mais ça se fait. Mais ça nous amène, parce qu'il n'y a rien qui est dit, et que Dieu, malgré tout, est bon envers Israël, à des questionnements. Coudonc, Dieu, es-tu d'accord avec ça? Il n'y a pas rien fait. Et on vit ça, nous aussi, au quotidien. Quand il y a des situations terribles autour de nous, qu'on a prié pour quelque chose, qu'on voit quelque chose d'injuste, et Dieu semble ne rien faire, on se pose la question, mais Dieu, ça a-tu l'air à être dérangé vraiment, cette injustice-là? Quand il y a un mélange de chaos et de grâce, c'est toujours les questions que les croyants comme les incroyants sont pognés avec des questions morales et spirituelles qui sont vraiment embêtantes. Et là, on va voir exactement ce mélange. À travers cela, on va regarder quatre leçons en particulier qu'on va s'arrêter à travers notre lecture. Quatre leçons importantes à jongler, à réfléchir, à méditer dessus, à mettre en pratique lorsqu'on vit dans ce monde, dans cette génération chaotique. Quatre applications et observations pratiques pour nous, même s'il y en a plusieurs autres. Je m'arrête à ces quatre leçons-là en particulier ce matin. Juste vous remettre ici en contexte, on est dans une série de juges. Pas tous ont leur histoire toute détaillée. Certains sont plus populaires que d'autres, mais au début du chapitre, on ne le lira pas. Mais au chapitre 10, on voit entre autres ces deux juges qui sont mentionnés pour deux versets très brièvement. C'est Jephthé qui prend toute la place. Juste avant ça, on a vu déjà Gédéon. On a vu, et là, il y avait quatre chapitres, on a consacré qu'un seul message à cet homme qui vivait des doutes, tout comme nous, on peut vivre des doutes, et qui est avancé malgré tout, en avant. Et Dieu, dans une grande appel, lui a donné aussi plusieurs signes pour le supporter à avancer. Il ne faut pas avoir honte de nos doutes. Avançons malgré nos doutes. Demandons à Dieu la grâce spéciale pour l'appel et le défi qu'il nous donne, de nous donner ce qu'on a de besoin pour juste être capable d'avancer le prochain pas. Et Dieu s'occupera du reste. On a vu Barak et Déborah, et les deux autres, on les a simplement mentionnés, et pourtant, c'est des personnages qui vont avoir un impact pendant longtemps. Vous voyez ici les années d'oppression face aux années où ce qu'ils ont amené du repos en Israël. Beaucoup au début, ça rapetisse à mesure qu'on avance, et la moralité de ces hommes-là aussi, de ces femmes-là, descend, et c'est vraiment une dégringole spirituelle. Une décadence qui s'observe facilement à travers tout le livre qui devient de pire en pire. Et là, on arrive aux deux histoires de la fin du livre, dont une qu'on va regarder plus tard, parce qu'on va terminer la série présentement avant Libération 21. Je vais faire un seul message qui reste dans Juges qu'on va regarder. qui va nous préparer au livre de Ruth. Donc, voilà les différents personnages et aussi, vous voyez, les différentes tribus. Alors, le Seigneur n'a pas une tribu préférée duquel il va utiliser les hommes plus que les autres, même s'il a une lignée messianique, une lignée qu'il a choisie duquel va venir David. Il utilise des hommes et des femmes de toutes les tribus. Il utilise des hommes et des femmes de différents âges, de différentes régions. Il n'a pas de préféré. Dieu use de grâce envers tous. Et donc, une belle représentativité dans les types de professions que ces personnages ont, et la variété de personnages et aussi des régions. Et là, ici, le Seigneur n'est pas en train de faire de la représentativité. Hein? Il faut des gens de chaque région, tu sais, pour être équitable. Ce n'est pas ça l'idée. Le Seigneur nous montre tout simplement qu'il fait grâce à utiliser des gens de toutes les familles et que son esprit va aller sur les hommes et les femmes qu'il a choisis et qu'il ne fait pas de distinction pour accomplir ses plans. Ce n'est que pure grâce de la part de Dieu. Et ensuite, ben donc, je vous mentionne ces juges. On voit Jephté, qui va prendre beaucoup de place, et à la fin, trois autres qu'on va juste mentionner ici, mais qu'on ne va pas lire leur histoire. Il y a un ou deux versets, très peu est dit sur eux, mais ils sont mentionnés, ils ont existé, ils ont été là, ils font partie de la liste des hommes et femmes que Dieu a utilisés, même si on ne connaît pas autant de détails. Et c'est vraiment à la discrétion de Dieu de nous donner des détails sur certains personnages plus que d'autres. C'est correct. Maintenant, l'histoire de Jephté. Allons dans le chapitre 10 et le verset 6, lire quelques versets avant de prier et demander au Seigneur d'user de grâce envers nous ce matin, de nous parler par sa parole. Chapitre 10, verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ou continuèrent de déplaire, de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et ils servirent les dieux, Baal, les Astartés, les dieux des Syriens, les dieux des Sidoniens, les dieux des Moabites, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Donc, les Juifs, ils ne sont pas trop difficiles. Ils prennent un peu de tout. Hein. C'est vraiment la décadence. On prend un petit peu du Dieu-là, du Dieu-là, du Dieu-là. Toutes des dieux dont on a battu leur peuple à un moment donné ou à un autre. Mais dans leur égarement spirituel, ils deviennent un peu vraiment là, des prostituées spirituelles à prendre un peu de n'importe quoi comme Dieu. Et on l'a mentionné, les dieux n'étaient pas juste des statuts, c'est des priorités dans leur vie. C'est des aspirations. C'est des choses qui deviennent la priorité dans leur vie. Et on peut tous tomber, vous savez, avoir toutes sortes de dieux dans nos vies, des choses qui prennent la première place et qui nous font négliger les choses plus importantes, comme notre relation avec Dieu, nos relations. Honorer Dieu, lui obéir, prendre du temps avec lui. Et des choses qui prennent la place, qui tassent Dieu, qui tassent ce qui est prioritaire dans notre vie. Et ces choses sont des dieux. Et les Juifs, vous savez, à ce moment-là, s'étaient égarés et touchaient à peu près à tous les dieux qui existaient. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, on dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et Dieu les vendit, effectivement, entre les mains des Philistins et les mains des Ammonites. Donc, on va voir les Ammonites aujourd'hui, mais les Philistins nous préparent aussi à ce qu'on va voir avec Samson. Nous, on ne va pas le voir, mais si vous continuez votre lecture, vous allez voir le personnage de Samson qui, lui, s'est battu de l'autre côté du pays. On va le voir sur une map tantôt. Les Philistins sont sur le côté de la mer, tandis que les Ammonites sont de l'autre côté de la rivière. Deux géographies très différentes et qui semblent être arrivées à peu près dans la même époque. Donc, il y a certains de ces juges qui se chevauchent, qui sont dans différentes régions du pays. Et ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël étaient de l'autre, les enfants d'Israël étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoriens, en Galaad. Donc, on précise que c'est ceux qui sont sur le côté droit, le côté est du Jourdain, donc ce qui serait aujourd'hui la Jordanie. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain même pour combattre aussi Juda et Benjamin de l'autre côté et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Et notez bien ici, une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu. » Et nous avons servi des Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, écoutez bien ceci, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoriens, des fils d'Ammon, des Philistins, des Sidoniens, Amalek, Mahon? Alors, et lorsque les Sidoniens et Amalek et Mahon, excusez-moi, vous opprimaient et que vous criez vers moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Fait qu'il rappelle le passé, sa fidélité, son écoute, leur égarement continuel, et pourtant que Dieu revient à leur rescousse. Mais là, mais vous, Vous m'avez abandonné. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est un choix, une négligence intentionnelle, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Et là, tout le monde fait, « Oh, ben voyons donc, Dieu, peux-tu faire une affaire de même? » Venir écœurer, puis dit, « Non, je n'écoute pas ta prière, je suis tanné. » Mais c'est ce que le texte nous dit ici. Que Dieu peut se tanner, s'irriter, de nous voir tout le temps recommencer. Mais on ne va pas s'arrêter ici. On serait bien découragé. Continuons à lire, il y a peut-être de l'espoir dans les versets qui suivent. Et là, il leur dit, « Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. » Là, on est encore plus découragé. Parce que là, Dieu est en train de, en bon Québécois, de rire d'eux autres. Vous les adorez. Continuez, faites des sacrifices. Demandez-leur donc à eux autres de vous délivrer, puisque vous leur donnez tellement de temps, le meilleur, de l'argent, du dévouement, des cérémonies, puis vous donnez tellement de choses et de préoccupations dans vos conversations sur vos dieux. Demandez-leur à eux autres, voyons. Là, on est encore plus découragés. Les enfants d'Israël diront à l'Éternel, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. » Oh, OK, attends un peu, là, tu as mon attention. Wow! Quelle déclaration. On va leur lire pour être sûr qu'on n'a pas mal compris. Ces enfants d'Israël qui ont dit à l'Éternel, « Nous avons péché. » Ça, c'est une confession. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient victimes. Et là, il dit, « Traite-nous comme il te plaît. » En fait, littéralement, c'est « Traite-nous comme il fait bon à tes yeux. » Ah, ah. Vous vous rappelez, hein? « Ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Il dit là, « Traite-nous comme tu trouves bon à tes yeux. » Ils sont en train de dire, « Écoute, Seigneur, tu as raison. » Ça n'a pas d'allure comment on se comporte. Puis les conséquences, coudonc, c'est vrai, on les mérite. Hey, là, on vient de sortir de la victimisation. Hey, ça, c'est dur pour l'être humain. On trouve ça dur. Parce que tant qu'on a des excuses, hein, puis qu'on peut pointer quelqu'un, quelque chose, ça va quand même pas pire dans notre conscience. Mais là, quand on n'a plus rien à pointer, puis on dit à Dieu, écoute, tu as raison. Punis-nous. On va te faire confiance pour le reste. Garde, on mérite tellement pas ta grâce, Seigneur. Et là, tout à coup, il y a peut-être quelque chose à faire. Quand on s'est résigné, arrêté de réclamer de Dieu un dû, comme si Dieu nous doit quelque chose. Et que là, il y a de la place pour l'humilité. La confession. La non-réclamation d'un dû, mais peut-être même... Tu peux nous donner les conséquences qu'on mérite. Regarde, t'es juste. Wow, là, tout à coup, il y a quelque chose à faire. Et là, à ce moment-là, on entendrait une mouche voler. Parce que là, on est tous bouche bée. Ça n'arrive pas souvent. Regardez bien ce qu'il dit. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui, s'il vous plaît, use de grâce. Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et ils servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Et c'est une drôle de traduction, mais on dit qu'il a été exaspéré. C'est le mot utilisé dans quelques chapitres plus tard, au chapitre 16, verset 16, quand Samson est exaspéré que la madame a harcelé pour y dire son truc puis son secret. Puis là, on dit qu'il était exaspéré. C'est le mot qu'il a été exaspéré. De leur souffrance. On l'a traduit comme ça, il a été touché. Est-ce que ça traduit sa sensibilité, son exaspération? Il y a des opinions différentes là-dessus, mais ce que je sais, une chose, c'est que, il est en train de dire que Dieu, il n'est pas insensible. Il a fait quelque chose. Et là, tout à coup, il y a de l'espoir. On va prier ensemble, OK? Seigneur, c'est ta parole qu'on vient de lire et on va continuer à la lire, Seigneur, et on a vraiment besoin de toi. De ton esprit pour comprendre, pour être réceptif. On a besoin de toi parce que c'est ta parole. Et on aimerait tellement ça ce matin que, encore une fois, tu nous parles. S'il vous plaît, Seigneur, parle-nous ce matin par ta parole. On te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Alors, juste avant qu'on continue sur notre texte, voici les trois grandes lignes de ce qu'on a ce matin et qu'on va couvrir brièvement. Mais on a le contexte dans lequel cet homme a été choisi. C'est dans ce contexte-là, de cette confession, de cette crise-là du pays, que va choisir cet homme-là. Ensuite, on a la victoire et le vœu particulier que fait Jephté. C'est le chapitre 11 au complet. Et puis, au chapitre 12, on a une contestation qui suit le combat et la victoire. Parce qu'évidemment, après une grande victoire, il y a toujours du monde pour venir picosser puis gosser après des niaiseries, puis des détails qui n'ont pas été faits tout à fait bien, selon certains. Et là, de gosser pour nuire à célébrer la victoire, n'est-ce pas? Et là, il peut y avoir des conflits assez importants qui peuvent parfois même être coûteux. Et c'est le chapitre 12, versets 1 à 7. Ce qu'on lit essentiellement dans le récit, c'est ceci. Vous vous rappelez, le cycle qui recommence tout le temps. Il y a de la rébellion, il y a de la rétribution, donc Dieu punit, il donne ce qu'il mérite. Ensuite, tout à coup, il y a une repentance. Et contrairement à la dernière repentance qu'on avait lue avec Gédéon, il n'y avait pas vraiment eu de repentance. Ils ont crié, mais on ne dit pas qu'ils sont repentis. On ne dit pas qu'ils ont abandonné leur Dieu. On ne dit rien de tout ça. Ici, on a une repentance assez marquée, impressionnante. Et là, il y a l'histoire de la restauration, comment Dieu va ramener une victoire, puis leur redonner la liberté et finalement du repos pendant 6 ans à la fin de cette victoire-là. Donc, c'est le parcours général qu'on a ici sur ce 6e cycle dans le livre des Juges. Maintenant, la prière. Ce qu'on vient de lire, c'est ceci essentiellement. Il y a une prise de conscience et repentance réelle qui implore l'Éternel. Il y a le message de l'Éternel qui est donné et qui leur reproche pour dire, bien, écoutez, vous recevez ce que vous méritez essentiellement. Et finalement, il y a une confession, une demande de pardon. Dit, on a péché, fais regarde, ce qu'on mérite, c'est correct, on ne réclame pas plus de toi. Et finalement, on voit que le Seigneur décide, par leur changement de comportement, d'être sensible. Et remarquez bien ici, la repentance est suivie d'un verbe d'action. Qu'est-ce qui est écrit? Regardez dans votre Bible, là, je ne vous le dirai pas. Qu'est-ce qui est écrit? Il y a un mot important qui montre qu'ils ont fait un choix après avoir dit « on demande pardon » et ils enlevèrent, ils ôtèrent, ils écartèrent. Vous savez, si Dieu, on demande pardon pour quelque chose, puis il n'y a pas d'action après, c'est pas ça une repentance. La repentance, c'est lorsqu'il y a un changement profond à l'intérieur du cœur, un changement de pensée, une prise de conscience que Dieu amène, une conviction de bien et de mal. Et lorsqu'il y a un changement à l'intérieur, ce changement intérieur se manifeste par une action extérieure. Ce n'est pas l'action extérieure qui est la repentance. Vous me suivez? C'est un résultat de ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a un mensonge qui a été brisé, il y a une prise de conscience, il y a un regret profond, et tout à coup, il va se passer une action. Et si Dieu prend plus de place, il y a quelque chose qui va se tasser à quelque part. C'est pas normal. Si Dieu prend plus de place, il va tasser. Tu peux pas ajouter un nouveau gros meuble dans ton salon si tu fais pas du ménage, parce qu'il va y avoir un problème. Tu vas devenir encombré. Et quand Dieu prend de la place dans une vie, il y a des choses qui prennent le bord. C'est juste le dénouement naturel d'un changement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tassé les dieux. Les dieux sont tassés. Et ça, c'est rassurant. On se dit, OK, il s'est passé quelque chose ici. Cette semaine, j'ai eu le privilège d'assister à une réunion de prière en ligne. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler d'un réveil qui s'est passé depuis le 8 février aux États-Unis dans une ville qui s'appelle Asbury. Quelqu'un a entendu de ça cette semaine? Ça s'est promené là, sur les réseaux sociaux beaucoup. Il n'y a pas juste des mauvaises choses, les réseaux sociaux, il y a plein de belles choses aussi. Et j'ai pu assister, il y avait un lien qui était disponible, on pouvait assister en ligne jeudi soir, si je ne me trompe pas. Et j'ai pu passer 2h30 pendant que j'étais en train de lire la parole, dans ma préparation, d'écouter, de regarder et de voir. Il y avait un millier de personnes dans la salle, mais des milliers de personnes un peu partout dans le monde, des groupes bibliques dans une université assistaient à travers le pays et dans le monde. Des gens venaient à différents pays aussi pour venir. Ils avaient entendu parler de tout ça et qui se disaient, s'il y a un réveil là-bas, je vais aller voir ce qui se passe. Et il y a des gens qui sont venus du Canada, d'autres pays du monde pour venir voir ce qui se passait à Asbury, où il y a un séminaire juste en face de cette université-là, un séminaire méthodiste, Wesleyan, où il y a eu des réveils dans le passé, où il y a eu des grands prédicateurs du réveil également, des années 1800 et 1700. Et en toute simplicité, j'ai pu écouter pendant 2h30 de temps des gens qui s'arrêtaient pour prier, des gens qui louaient Dieu, des gens qui se mettaient en petits groupes pour prier, des gens qui venaient spontanément, 5-6 personnes à un moment donné étaient sur la scène, puis là, ils venaient au micro, puis ils lisaient un texte qu'ils avaient à cœur, qui les encourageait dans le moment présent. Et là, il le lisait à la congrégation. Il partait, un autre venait, lisait un texte des Écritures, en toute simplicité. Un autre venait, et des leaders se levaient, ils ne faisaient pas des grands sermons, des grands discours, venaient partager ce que Dieu mettait sur leur cœur pour encourager l'assemblée pendant 5 minutes. Et là, un autre chant partait, avec un leader de louange puis une chorale en arrière. Puis, c'était pas très organisé, c'était en toute simplicité. Puis, quand quelqu'un parlait, tu voyais toute la chorale, il y était 50 en arrière. Ils s'assisaient tout simplement sur leur banc d'être là, les jambes croisées, des étudiants habillés comme vous et moi en toute simplicité, et qui s'attendaient simplement que l'Éternel leur parle, puis les encourage, puis qui confessaient leurs péchés. Et il y avait un appel, justement, dedans à confesser les péchés. Et des gens partageaient des victoires qu'ils avaient dans leur vie spirituelle. Des abandons, des guérisons qui se passaient. Et en tout réalisme, il disait, là, j'avais beaucoup parlé d'anxiété, le Seigneur a fait quelque chose. Bon, j'ai eu des relents cette semaine, mais Dieu m'a donné une nouvelle étape de guérison. Puis je vois des changements. Ils étaient branchés sur la terre. Ils n'étaient pas dans les nuages en train de dire n'importe quoi. Ils étaient dans la réalité de Dieu qui agit, mais dans un monde pécheur, et qui confessaient leurs péchés en toute simplicité. Et ça commençait avec une réunion, le 8 février. Mais la réunion n'a pas arrêté. Elle a continué. Puis elle n'a pas arrêté depuis. Puis les gens continuaient à venir chanter. Ils restaient sur place à prier. Ils restaient en petit groupe à confesser leurs péchés. Ils restaient en petit groupe à lire la parole. Puis d'autres personnes revenaient. Puis ça continuait en toute simplicité. Ce n'était pas organisé. Ce n'était pas dans l'organigramme des activités de l'année. Ce n'était pas quelqu'un qui était là continuellement. Ce n'était pas un prédicateur invité pour 3 semaines de réveil. Non, ça s'est juste fait spontanément. Parce que lorsqu'il y a vraiment dans le cœur humain, une prise de conscience du bien et du mal, puis qu'il y a un regret sincère, une confession des péchés, il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez? Et vous l'avez déjà vécu à un moment donné dans votre vie. Vous vous rappelez ce moment-là où il y a des prises de conscience. Puis quand vous y pensez, il monte en dedans de vous une émotion très forte. Parce que vous vous rappelez le sentiment que vous avez vécu à ce moment-là d'une conviction profonde. Que ce soit au moment où vous êtes converti, au moment où ce que vous avez abandonné, ou une victoire importante dans votre vie, une prise de conscience, vous avez participé à un moment donné intense, où ce que vous avez accompagné quelqu'un dans la conversion, où vous avez aidé quelqu'un, où ce qu'il y a eu une grande épreuve et que, bon, Dieu a répondu. Et vous vous rappelez de ce moment-là, n'est-ce pas? Mais maintenant, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'émotions continuellement. Mais les émotions en font partie. Dieu a créé nos émotions. Pour qu'on le remercie, pour qu'on fasse des prises de conscience, pour qu'on réagisse spontanément à ce qu'il met sur notre cœur. Amen. Puis qu'on ne soit pas toujours en train de raisonner, calculer en or américain que nous sommes. N'est-ce pas? À calculer le prix. Ouais, mais si je fais ça, comment il va réagir? Comment elle va répondre si j'ai dit ça? Puis là, lui, là, si j'ai dit ça, comment? D'arrêter de calculer. Dirigé par l'Esprit-Saint. Et je dis bien, dirigé par l'Esprit-Saint, parce que des fois, on est un peu embêté en dirigé par l'Esprit-Saint puis dirigé par mes émotions. Dirigé par ma logique. Dirigé par mes déductions. C'est la ligne est mince, je comprends. C'est tout un défi. On veut être sensible. Et il se passait quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Il se passait quelque chose d'authentique. Et malgré tout leur manquement, Dieu va faire grâce. Et on lit ceci, les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent à Galaad. Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Mitzpah, c'était un des endroits où on traversait le Jourdain. Ça veut dire gué, un lieu où on va traverser, favorable pour traverser. Et le peuple, les chefs de Galaad, se dirent les uns aux autres, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Et il sera chef de tous les habitants de Galaad. » Ils sont conscients que celui qui va diriger ça, là, il en faut un leader. Mais là, ils n'ont pas de leader. Ça va bien, hein? Quand ça va pas bien, il y a un manque de leader et un manque de leader de qualité en plus. Et qui, Seigneur, va se lever? Qui va être l'homme? Et là, tout à coup, on arrive à notre personnage. Donc, juste une petite leçon avant d'aller à notre personnage. Dieu est sensible à nos détresses. C'est la première leçon que j'aimerais qu'on s'arrête dessus, qu'on prenne comme observation. Il n'est pas indifférent à nos souffrances, au cœur sincère qui implore sa miséricorde et démontre un brisement, une repentance sincère et qui le montre par le fait qu'il écarte des choses de sa vie. Même si Dieu va nous permettre de vivre des conséquences qui ne nous enlèvent pas toutes les conséquences qu'on vit, On est sur terre. Il n'enlèvera pas toutes les guerres. Il n'enlèvera pas tous les gens qui nous ont fait du mal. Il n'enlèvera pas d'avoir nécessairement un boss qui n'est pas gentil avec toi. Il n'enlèvera peut-être pas la personne qui t'intimide dans ta classe, à ton travail. Dieu ne fait pas ça enlever tous nos problèmes. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Mais j'aimerais vous dire qu'il est clair dans notre texte que Dieu est sensible. Que Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance, à ton épreuve, à ce que tu vis dans ton cœur, à tes doutes, à tes questionnements, à tes hauts et tes bas, à tes prises de conscience. Dieu y est sensible. Il va dire, continue à me demander. J'aime ça quand tu viens me demander. J'aime ça quand tu demandes à papa, puis tu y fais part de ce que tu vis. Puis qu'en même temps, tu me dis, oui, mais papa, je sais que je le mérite, je te fais confiance. Oh, que ça y fait plaisir d'entendre cette humilité-là, que je ne fais plus la victime, puis qu'au lieu de pointer vers des affaires, je suis en train de me pointer vers moi. Je dis, non, ce qui est-ce qui passe là, je sais, là, je suis sur terre, je suis un pécheur, je le mérite, j'ai fait des bêtises, il y a des choses que les gens m'ont faites, moi j'ai fait des affaires aux autres, correct Seigneur, tu sais, je te fais confiance, mais voudrais-tu me délivrer pour cette affaire-là, s'il vous plaît? Dieu n'est pas indifférent. Si ce matin tu as un doute, que tu sens que Dieu est loin, qu'il y a de l'air à être indifférent à ta souffrance, sache ce matin que Dieu te rappelle par sa parole, dans les moments les plus creux d'Israël, il n'est pas indifférent. Amen. Disons-le ensemble. Il n'est pas indifférent. Encore. Il n'est pas indifférent à mes problèmes, tes problèmes. Et il est sensible. Le contexte, on vient de lire la mobilisation. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Il y a un homme qui va être invité. Jephté, le Galadite, était un vaillant héros. Et c'est une expression qui est utilisée, vaillant héros, pour Gédéon. Hey, vaillant héros, c'est comme ça qu'il l'a appelé lorsqu'il l'a invité, Dieu, par son ange. C'est le titre qu'on donne aussi à... Vous vous rappelez à l'histoire de Ruth? Boaz était un vaillant héros. C'est une expression qui ne veut pas dire nécessairement un guerrier, nécessairement, mais un homme droit, un homme de force, un homme qui, lorsqu'il est convaincu de quelque chose, il agit. C'est ça que ça veut dire essentiellement. Et parfois, ça se manifeste par être un homme de valeur qui met la parole en pratique, comme Boaz, ou d'en faire un guerrier qui va diriger un peuple vers la guerre. Il était un fils de prostituée. Bon, on comprend. Et c'était Galaad qui avait engendré Jephté. Et là, c'est pas clair si Galaad, c'est le nom de son père ou c'est simplement de manière générique pour dire de la tribu de Galaad. C'est pas tout à fait clair, OK? Donc, c'est pas clair si c'était Galaad, l'ancêtre, bien, c'est un descendant de Manassé. Mais si c'est Galaad, un autre Galaad dans cette région-là, ça pourrait être un descendant de Gad, de Manassé, de Ruben. C'est un peu embêtant. Donc, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est que la femme de Galaad, ce personnage, ou ce paternel lointain, lui enfanta un fils qui est devenu grand, un chasseur, Jephté. Et on lui dit, excusez-moi, la femme de Galaad lui enfanta aussi des fils, excusez-moi, qui devinrent grands. Et ils chassèrent leur frère, qui était pour eux un bâtard, de la prostituée. Eux autres, ils étaient tous de la même mère, des vraies femmes de leurs parents, en tout cas, s'il y avait plus qu'une mère. Lui, c'était le bâtard de la prostituée. C'est ça, grosso modo. Alors, tu n'hériteras pas, ils le chassèrent, dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Jephté s'enfuit, loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. On comprend ici que c'est un endroit qui serait sur la ligne de la Syrie, peut-être une centaine de kilomètres environ de cette région-là. Des gens de rien, des vauriens, des gens vides, littéralement, se rassemblaient autour de lui. Il est devenu une sorte de chef de bande. Et il faisait avec lui des coups de main. Donc, il faisait des raids, en quelque sorte. Donc, il se fait une gang de vauriens autour de lui qui s'accumule autour de lui. Un homme avec rejeté, blessé par sa famille, qui est en quête d'une nouvelle identité. Il y a un groupe autour de lui, un homme qui est fils d'une prostituée. Qu'est-ce qui se passe après ça? Quelques temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les enfants d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephté au pays de Tob. Tob veut dire « bon ». Parce que c'est une manière de parler du bon pays, une bonne ville. C'est un peu embêtant, mais ils dirent à Jephté, « Viens, tu seras notre chef. » OK, bien, c'est parce que vous m'avez rejeté. « Et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephté répondit aux anciens, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et vous ne m'avez pas chassé de la maison de mon père? » Il semble que ce n'était pas juste les frères, mais il y avait des gens autour qui voulaient se débarrasser de lui aussi dans le leadership. « Pourquoi venez-vous à moi maintenant? » Que vous êtes dans la détresse, hein, c'est ça, c'est vrai, effectivement. Il y a des gens qui sont ben d'adon, tout à coup, on n'est pas intéressé à eux, mais quand on a besoin, tout à coup, là, on demande. Les anciens de Galaad dirent, Jephté, nous revenons à toi maintenant. Nous revenons à toi. C'est le mot utilisé justement pour le repentir normalement, quand on revient à Dieu. Nous revenons à toi. On le regrette maintenant. Afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef. Et le mot utilisé chef, là, il y a des fois, c'est le mot notre tête. C'est le mot pour chef. Des fois, c'est le mot vraiment chef, chef de tribu qui est là. Il y a les deux qui sont utilisés. Celui de tous les habitants de Galaad. Jephté répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef, votre tête. » Et les anciens de Galaad dirent à Jephté, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Il est en train de vouloir se rebattre pour retrouver son héritage, sa place dans la société, d'être restitué comme fils de légitime de la famille de Galaad. Et Jephté partit avec les anciens de Galaad, et le peuple mit à sa tête, et l'établit comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel, à Mitzpah, toutes les paroles qui avaient été prononcées. Il n'est pas bête, hein? Il s'assied en passant, là, vous sachiez, les anciens m'ont dit ça, c'est à tel titre que je viens à cause de ça. C'est-tu clair à tout le monde? Oui, c'est correct. Fais juste nous diriger, là. Mais lui, il protège ses oreilles, il veut retrouver sa place en même temps, OK? Donc, les anciens vont aller le chercher pour l'amener, pour finalement commencer à agir comme chef pour eux, chef de la diplomatie galadite face au roi d'Amon. Jephté envoya des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire, « Y a-t-il entre moi et toi que tu viennes contre moi pour faire la guerre? » Alors, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que tu viennes à mon pays. Et le roi d'Amon répondit au messager de Jephté, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, tu nous rabâches une vieille histoire, là, parce que ça fait plus que 300 ans, le grand. Là. Ça fait un bout, là. Oui, les vieilles histoires. Mais des fois, on les utilise à notre manière, avec notre sauce. Et c'est ce qui se passe ici. Quand vous êtes monté d'Égypte, il s'est emparé de mon pays. » Le coin que vous avez, là, c'était notre pays avant, depuis l'Arnon jusqu'au Jarbak. Alors, deux rivières qui descendaient jusqu'au Jourdain. Le Jourdain, il passe comme ça, et là, ces deux rivières-là arrivent là, et entre les deux et en dessous, il y a des distinctions de territoire de cette façon-là. Au Jourdain, rends-le maintenant de bon gré.
Ben oui. C'est ce que M. Poutine aussi a dit à M. Zelensky.
Donne-nous-le de bon gré. Les gens sont comme ça, vous savez. Jephté envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon pour lui dire, « Ainsi parle Jephté, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab. » Petite correction, un petit peu. Moab, on n'a pas pris rien de Moab, ni du pays des fils d'Amon. Dieu nous avait dit en passant de ne pas faire ça, on ne l'a pas fait. Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Et alors, Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, « Laisse-moi passer sur ton terrain. » Mais le roi d'Édom ne consentit pas. Il envoya aussi le roi de Moab qui refusa. Et Israël resta à Kadès. Il dit, « Tiens, on vous a consulté, puis on n'a pas outrepassé votre territoire, puis on a demandé la permission. » Puis vous l'avez rejeté. Puis il marcha par le désert. Tourna le pays des dons. On l'a contourné, on a fait le détour pour éviter les guerres. De Moab aussi. Il vint de l'Orient de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, dans l'entrée, sans entrer dans le territoire de Moab, sur l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoyait des messagers à Sion, roi des Amoriens. Donc, ce n'est pas ces deux peuples-là, des peuples cousins d'Israël, en quelque sorte, les Amon puis Moab. Ils ont envoyé des messages à d'autres. Et vous avez toute cette histoire-là dans le Pentateuch. Roi de Hesbon. Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'a pas eu confiance en Israël pour laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple à Jahath et il combattit Israël. Et l'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains. Donc, c'est l'Éternel qui les a donnés littéralement dans ses mains, qui habita Israël et s'empara de tout le pays qui est établi, etc. Et il s'empara de tout le territoire des Amoriens depuis l'Arnon jusqu'au Jarbok. Depuis le désert jusqu'au... Et là, maintenant, l'Éternel Dieu d'Israël a chassé les Amoriens devant son peuple. Est-ce que toi, tu aurais la possession de leur pays? Alors, le premier argument, c'est, ils disent, écoute, un petit brin d'histoire, tu veux nous retourner en arrière? Moi aussi, je la connais, notre histoire. Puis le terrain qu'on a pris, c'était pas le vôtre. On a évité le vôtre. On a tout fait dans le passé, justement, pour être politiquement correct. On a évité votre territoire. Vous avez dit, non, on a fait le tour, les détours. On était 2 millions. On l'a fait quand même. On demandait permission, puis quand il y a eu une attaque, c'était des Amoriens, puis nous, on a pris les villes de ces Amoriens-là, c'est pas votre territoire à vous. Puis en passant, c'est Dieu qui nous l'a donné. Fait que, là, il dit, tu vas-tu posséder quelque chose que Dieu a donné à Israël? Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il corrige l'histoire, puis il ramène ce que Dieu a fait, puis il dit, là, tu seras en train de vouloir posséder quelque chose que Dieu a donné. Pas à toi, à nous. Il ramène l'histoire et met Dieu en cause dans la manière dont ils avaient. Et ça, c'est vraiment important. Nous, on ramène des choses à nous. Puis ce gars-là, rempli de l'Esprit de Dieu, raconte l'histoire, mais il ramène à l'enjeu. C'est Dieu qui a donné ce territoire. C'est lui qui l'a donné à posséder. Et le mot « posséder » ici est utilisé au verset 22, 23, 24, 8 fois. Il dit, celui qui a pris possession, c'est Dieu. Puis nous, on a pris possession que Dieu nous a donné. Et le mot est utilisé 8 fois, tout comme on l'a retrouvé 12 fois dans le premier chapitre. C'est les deux endroits dans le livre là, où ce qui en parle beaucoup de prendre possession. Puis à chaque fois, c'est Dieu qui prend possession. Et il donne à Israël. Et s'ils n'ont pas pris possession, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas, c'est parce qu'ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas mis Dieu à l'épreuve. Et il dit, Dieu leur a donné. Attention à qui tu t'attaques. C'est... Il ramène les perspectives des choses. C'est ce que ton Dieu Kamosh te donna à posséder, tu ne le posséderas pas, n'est-ce pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous donne à posséder devant nous, nous le posséderons. Il t'a dit, garde, ton Dieu te donne tes terres, garde-les, les dieux de notre terre, on va les garder. Chacun son Dieu et les terres que son Dieu lui a données. Alors, ce n'est pas le genre d'argument qu'on aurait utilisé nécessairement nous, là, mais à ce moment-là, c'était vraiment bien exprimé. Veux-tu donc, vaux-tu mieux que Balak? Là, on se dit, ah, c'est qui ce Balak-là? Là, des leçons d'histoire, on est loin en arrière. C'était le roi de Moab. Le fils de Tsippor, roi de Moab, a-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Il dit, ce gars-là, il n'a même pas osé nous attaquer. Il avait fait venir Balaam, rappelez, c'est lui le roi qui avait fait venir Balaam. Ça avait tout échoué. Il voulait les attaquer, il voulait les maudire, mais il n'osait pas les attaquer. Il dit, serais-tu mieux que lui? Il n'a pas osé attaquer Israël. Voilà 300 ans. C'est le gars de l'époque qui nous dit, ça, c'était il y a 300 ans. Fait qu'on sait qu'on se trouve ici maintenant aux alentours de 1100 et quelques poussières avant Jésus-Christ. Est-ce bon? Dans ces villes d'Aoar, que la ville nous a été donnée, etc. Je ne t'ai point offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge, et il a souligné ces versets-là, le verset 27. Que l'Éternel le juge soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Il invite encore Dieu dans tout ça. C'est la première fois que là, tout à coup, le mot « juge » est utilisé avec cet accent-là verbal. Il est attitré à Dieu. Jusqu'à présent, il y a eu des jugeants, des gens qui sont utilisés par Dieu pour juger le peuple et agir comme libérateurs, des sauveurs, des sauvants. Mais là, le verbe ici est un peu différent pour parler de Dieu et c'est lui qui juge. Malgré qu'il y a des juges qui ont été envoyés, des libérateurs, Dieu est le juge derrière ces libérateurs-là. N'oublions pas cela. Et il le précise ici. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles de Jephté qui lui dit. Donc, diplomatie avec le roi d'Ammon. On voit son argumentaire. On voit comment il ramène les choses de l'histoire. Il ramène Dieu dans les faits. Il rectifie les choses. Mais il n'écoute pas. Et là, il y a la victoire. Regardez bien. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Et il traversa Galaad, donc la région, et Manassé. Et passa à Mitzpa de Galaad. Parce qu'évidemment, il y a un Mitzpa plus qu'un endroit. De Mitzpa à Galaad, et il marcha contre les fils d'Ammon. Et là, on lit au verset 30. Jephté fit un vœu à l'Éternel. Et il dit, si tu livres, en parlant à Dieu, entre mes mains, les fils d'Ammon, quiconque sortira de ma porte, ma maison, au devant de moi, à mon heureux retour d'avoir battu les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. OK, c'est ça. C'est un peu drôle comme engagement. Là. Rappelez-vous, c'est un fils de prostituée. Hein? Toutes sortes de mœurs différentes, manières d'aborder les choses. Et ce qui arrive, c'est que là, ici, il est en train de faire ce que nous, on fait. C'est que là, Dieu nous a fait un appel, mais là, on veut mettre quelque chose devant Dieu, puis que, « M'en faire ça, si tu fais ça, m'en faire ça. » Puis là, c'est comme une manière aussi de dire, « M'en t'offrir quelque chose. » C'est une manière de payer Dieu. Vous comprenez? On aime ça, pas avoir de dette avec Dieu, puis de gagner les choses, de mériter les affaires. Et ça, c'est une approche tellement typique de guerrier. Là, là. Si tu fais ça pour moi, là, m'en faire, c'est comme si on fait un bargain avec Dieu. Là. Puis Dieu, vous savez, s'insurge pas de tout ça. Il nous laisse faire. Il fonctionne, non que c'est lui qui initie ça, mais il fonctionne avec nos engagements des fois niaiseuses, pas morales, nos engagements avec des motifs douteux de vouloir mériter quelque chose, de gagner. Hein? Puis, dans ce monde pécheur, avec nos pensées, Dieu avance avec ça, il ne s'en fâche pas. Mais il nous laisse aussi récolter ce qui va avec. OK? Et notez bien ce qui va se passer ici. Donc, il fait ce vœu-là impulsif, pas très réfléchi, et pour mériter quelque chose, alors que l'Esprit de Dieu est sur lui. Puis, quiconque sortira de la porte de ma maison, je vais l'offrir en holocauste. Et là, Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Et c'est tout. Il leur fit éprouver une grande défaite depuis Aorer, donc au sud, jusqu'à Mininite, espace qui renferme 20 villes, et jusqu'à Abel-Karamim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. On n'a aucune description de comment s'est fait le combat. C'est pas vraiment important. C'est pas ça qui est important. La leçon ici, c'est que le facteur de succès n'a aucun lien avec le vœu que monsieur a fait. Ça, c'est un sujet de distraction. Tout est lié ici au fait que l'Esprit de l'Éternel était sur lui, puis il a parcouru. Il a parti. Et l'appel des gens a été répondu, il est venu, il a gagné. Le détail n'est pas important pour l'auteur. C'est pas important. Il a eu la victoire, puis ça a passé par être rempli de l'Esprit de Dieu, aucun mérite de sa part, aucune prouesse vantée de sa part. L'Esprit de Dieu l'a rempli, il est allé, il a foncé, datit, et Dieu est avec lui. Et on dit que Dieu a livré entre ses mains, au verset 30, c'est clair, c'est Dieu qui fait ça. Et quand le résultat nous le montre clairement aussi, le résultat, une grande défaite et l'abaissement de l'ennemi. C'est tout ce qui est important. Il y a d'autres combats que Dieu nous donne des détails, il y a des leçons, des choses qu'il veut nous apprendre dedans, comme avec Gédéon, avec Jephthé. C'est pas ça qui est important. Voyez autour là, comment il n'y a rien qui a été méritoire, que Dieu a usé de grâce, il a donné son esprit. Le gars, il était immoral, il fait des drôles de vœux, il va faire des grosses affaires après, bizarres, puis ils vont récolter ce qu'ils ont. Mais Dieu lui était au rendez-vous. Puis quand Dieu dit « tu vas avoir la victoire », tu vas avoir la victoire. Et quand Dieu dit qu'il va avoir la victoire, il va mettre toutes les ressources qu'il doit y avoir pour y arriver. Et il l'a fait. C'est tout. La victoire dépendait entièrement de l'Éternel, non des grandes prouesses, non du vœu et non de tout le fluff-là qu'il peut y avoir autour. Et l'auteur veut que ça soit clair dans la manière dont il a fabriqué l'histoire, rempli de l'Esprit de Dieu, pour nous le raconter, qu'on le lise encore aujourd'hui. Donc, là, depuis tantôt, je vous parle, puis finalement, j'ai regardé aucune de mes feuilles. Fait que j'ai essayé de les retrouver, là, et à partir de là, OK? Deuxième leçon, donc. Maintenant, fais un vœu. On va le lire brièvement, on ne va pas s'attarder trop longtemps, mais quand même, ça fait jaser, ce vœu-là. Et là, on dit, finalement, au verset 34, Jephthé retourna dans sa maison, puis là, finalement, c'est sa fille qui arrive en dansant, sa fille unique, il n'y a pas d'autre fille, il n'y a pas d'autre fils. Elle arrive en dansant pour célébrer la victoire de papa. Et dès qu'il la vit, au verset 35, il déchire ses vêtements. Il dit, « Oh, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu me jettes à terre, tu me mets à genoux. » Littéralement, c'est ça l'expression. « Et tu es au nombre de ceux qui me font trembler et tomber à genoux, littéralement. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Je ne peux pas revirer de bord, je me suis engagé devant Dieu. » Et c'est assez spécial de voir la réaction. Elle dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche maintenant, car l'Éternel, littéralement, t'a vengé de tes ennemis. » Et donc, Dieu mérite que tu tiennes ta parole, peu importe ce que tu as dit, père. Et c'est clair que Dieu a donné la victoire, est venu pour célébrer, puis ce que tu as dit, fallait. Alors, c'est pas clair, ça comprend, mais après ça, elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. » Donc, on comprend qu'il va y avoir quelque chose. Elle dit, « Laisse-moi libre pendant 2 mois. Et je m'en irai, j'errai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnons ou mes compagnes, mes amis. » Donc, c'est une femme vierge, assez jeune, sa seule. Et là, elle va aller pleurer sa virginité. On ne comprend pas d'où vient le chiolage de la virginité ici, dans le lien qu'il va l'offrir en holocauste. Est-ce que c'est lié au fait que là, lui, il n'y aura pas de descendance, clairement? C'est un gros sacrifice qu'il est en train de faire, puis il va l'offrir en holocauste. On comprend que c'est un sacrifice initialement. Mais il y en a qui vont dire, non, il va la consacrer au Seigneur, un peu comme un monastère, puis à cause de tout, il ne pourra pas avoir de descendance, il ne pourra pas avoir de relations. Mais là, il n'y avait pas de monastère à ce moment-là, puis c'est un peu imposé au texte cette histoire-là, parce qu'il parle d'holocauste, là. Alors, il y a toutes sortes de débats, puis j'ai lu des auteurs chrétiens, hommes et femmes, qui ont des différences d'opinions là-dessus. Il y en a d'un côté, il y en a de l'autre. Puis c'est correct d'avoir différentes opinions là-dessus, c'est pas grave, ça ne change pas grand-chose. Mais j'aimerais vous dire ceci, là. Quand ton père, c'est un fils de pute, pardonnez-moi, ben c'est toutes sortes d'affaires comme ça qui peuvent arriver. Et on n'a pas fini, il y a bien pire au chapitre suivant. Dans un monde où ce que Dieu est passé en arrière, où ce que chacun fait selon ce qui lui semble bon, que tu suis toutes sortes de Dieu, ben tu fais toutes sortes de décisions pas d'allure, tu fais toutes sortes de vœux pas d'allure, puis c'est pas le premier vœu niaiseux qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, comme Saül l'a fait un jour là, pour avoir la victoire, puis là, personne va manger. Ben là, tout le monde crevait de faim, il se battait pendant 24 heures, puis là, son fils dit, ouais, c'est quoi ce vœu-là niaiseux, là? Puis là, il a voulu tuer son fils parce que son fils a désobéi. Il dit, voyons, ça va pas dans la tête, le roi, là. On n'est pas à la première histoire niaiseuse d'un vœu déplacé que Dieu n'a pas demandé, que là, pour une raison quelconque, vient, passe par la tête impulsivement, puis que là, il faut que tu vives avec les conséquences. Là. C'est ce qui se passe ici. Et donc, personnellement, j'ai pas de problème, même si j'ai un problème avec la situation, j'ai pas de problème à croire que c'est ce qu'a fait, qu'effectivement, offert sa fille en sacrifice, en holocauste à l'Éternel, parce que beaucoup de païens faisaient ça à l'époque. Puis ils adorent les dieux païens autour. Donc, ils ont la moralité et les valeurs des dieux autour. Ce n'est pas surprenant, dans un chaos comme ça, que des gens qui semblent croyants, qui semblent réussir, fassent des drôles d'affaires des fois. J'ai entendu des fois des chrétiens dire, « Ah, mais lui, c'est un homme d'affaires, tu sais, puis il a réussi. » Ou elle, ou telle personne fait ça, puis il réussit. Puis là, à cause qu'il y a une réussite quelconque extérieure, on attache que tout ce qu'il fait est bien dans le fond. Puis c'est comme, on attache la réussite nécessairement que Dieu bénit. Vous savez, des fois, Dieu nous donne ce qu'on a, ça n'a aucun lien avec le fait qu'on le mérite. Et plus sur les bons comme sur les méchants. Il y a des business qui ont tombé pendant le temps de la pandémie sur des bons puis sur des méchants, sur des honnêtes puis des pas honnêtes. C'est pas comme s'ils vont faire un triage. OK, bien, ceux-là vont perdre leur business, ils ne sont pas corrects, mais ceux-là, ils vont garder leur business, c'est les corrects. Puis là, ceux qui ont gardé leur business, ça, c'est les gens honnêtes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, les amis. Là. Mais nous, des fois, comme chrétiens, on raisonne de même. Là. Des faux raisonnements. Puis là, on attache à telle personne qui semble réussir. Puis là, s'il dit quelque chose, ça doit être vrai. Là. S'il donne un conseil, ça doit être bon. Là. Puis ça doit venir de Dieu. Puis c'est comme. Moi, je connais des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, là, que. Il y a de l'argent au noir, les amis. Là. Ils ne payent pas comme pour leurs employés, ou des fois, ils ne traitaient pas bien leurs employés. J'en connaissais un qui sacrait après ses employés. Chrétien. Ah, OK. C'est quoi la différence entre celui de l'autre bord de la rue qui sacre après ses employés? Ah non, il n'est pas chrétien, puis il ne sacre même pas après ses employés. Est-ce que là, sa réussite est liée à sa foi chrétienne? Puis l'autre. Non, non, là, on fait des causes à effet un peu drôles, des fois, là, puis qui ne sont pas bibliques. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Y en a-tu quelques-uns qui comprennent ce que je veux dire? Parce que je me sens tout seul, là, en haut. Là, tu sais. Vous êtes là? Venez là. Merci, merci. Gênez-vous pas si je pose une question de répondre. C'est correct. On discute. Hein? Vous me suivez dans la pensée? Pis si vous y pensez, là, on a tous déjà fait ça quelque part avec quelqu'un autour de nous. Des drôles de raisonnements. Puis, attention, c'est pas vrai tout ça, là. Parce que sinon, on va coller à cet homme-là là, que tous ses vœux qu'il a fait, puis tu sais, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu quand il a fait ce vœu-là. Là. Parce que clairement, ça ne fit pas les valeurs de ce que Dieu dit lui plaire. Puis la manière dont il réagit, là, après ça, on ne voit pas non plus que ça fit avec ce que Dieu enseigne. Mais Dieu laisse les gens vivre le malheur qu'il invite dans leur vie par leur choix. Puis il ne prive pas ces gens-là de vivre les conséquences. On a tous fait des choix à un moment donné, puis Dieu n'a pas empêché. Je fais qu'on vive des conséquences de ces choix-là mauvais. Des fois, Dieu était gracieux. Pouf! On aurait pu mériter telle grosseur de problème, mais ah, finalement, on s'en est bien sauvé. Puis on dit, ah, je ne le méritais pas, Seigneur, mais merci. Écoute, parce que je mérite la mort. Je mérite d'être éloigné de Dieu. Tout ce que j'ai de bon n'est que pure grâce, les amis. Tout ce que j'ai de bon, c'est juste la pure grâce. Je peux avoir bien géré mes finances toute ma vie, puis là, pogner le cancer, puis là, tout dilapidé dans les deux prochaines années par une maladie qui continue, que je ne peux pas travailler, puis on a bien géré nos sous, puis là, le malheur nous frappe, puis là, tout part. C'est parce que je suis plus pécheur qu'un autre? Ou est-ce que la maladie peut frapper toutes sortes de gens? Il y a des gens qui ont pris le temps d'avoir une bonne santé, de bien se nourrir toute leur vie, puis meurent d'une crise cardiaque en faisant du jogging. Ah, il aurait dû jamais se priver de son bacon, franchement. Puis il aurait dû fumer à pipe comme mon grand-père aussi, parce que finalement, il est mort plus jeune que mon grand-père qui a fumé, qui n'a pas suivi le Seigneur. Puis Est-ce que là, je fais une cause à effet? Ben, alors, je vais faire ça de bord. Oui? Le malheur nous frappe. On ne peut pas juste calculer ça comme ça, toujours de la cause à effet. Il faut arrêter, là. Toute bonté n'est que pure grâce de Dieu. Toute bonté n'est que pure grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien que je mérite de ça. Et si Dieu me permet de prendre une bonne décision et que j'en récolte, hey, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, vous allez récolter aussi de vos bonnes décisions. Mais ce n'est pas une garantie non plus. Il y a plein de gens qui ont fait des bonnes décisions financières. Là, la ville de Mariupol, en Ukraine. Et où leurs bonnes décisions financières? Ils étaient sur le bord de leur retraite. Ils avaient payé leur maison. Et où leur maison? Un tas de ruines. C'est-tu un jugement sur leur gestion financière? Mais non. Mais non. Il faut penser en dehors de notre boîte, là. Puis chasser ces mensonges-là qui donnent des raisonnements et des conclusions qui ne sont pas bonnes. Et donc, il va récolter. Et là, n'ouvrons pas la bouche trop rapidement. La Bible est claire. N'ouvrons pas la bouche trop rapidement. Se mettre les pieds d'un plat. Je le fais ça facilement. Je parle trop vite des fois. Oh! Ça vous arrive? Bon. On n'est pas tout seul. On va prier les uns pour les autres. La Bible nous avait dit, avant de t'engager, là, prends le temps de réfléchir. Et je pêche. Je tombe dans ce panneau-là régulièrement. Parlez trop vite. C'est vrai. Ne parle pas trop vite. Ne te précipite pas à une décision lorsque tu t'engages devant Dieu, car Dieu est au ciel. Toi, tu ne l'es pas, tu es sur terre. Et toi, sur terre, ne t'engage pas trop. Si tu n'es pas obligé, là, engage-toi pas. Tu vas être lié à ce que tu t'engages. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de prier là-dessus. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Prends donc 24 heures. La nuit porte conseil. Demande un conseil, prie avec quelqu'un. Mais ici, là, on a tellement une belle leçon de comme, hey, parler trop vite, les problèmes que ça peut nous amener. Et vous savez, c'est qui les premiers à bénéficier, à avoir les conséquences de tout ça, souvent? C'est un enfant, c'est la famille, c'est les gens les plus proches de nous, notre garde rapprochée qui éponge nos dettes, nos problèmes, nos décisions. Quel avertissement dans un monde de décadence qu'on peut être impulsif, de dire non, je dois résister. Alors, juste pour vous situer, là, alors on a Ammon ici, Moab ici, les enfants d'Israël ont fait le tour comme ça pour rentrer ici. Là, okay? Et donc, il y a des rivières qui découpent ces territoires-là. Et à quelque part dans cette région-là ici, c'est de là qu'ils vivaient et que la plupart de ces gens-là, il y avait des raids qui se faisaient chez Ammon de ce côté-ci jusque chez les gens de Juda, de Benjamin. Et on a les Philistins qui vivent dans cette région-là, qui vont donner de la misère à toute cette région-là du monde, et des fois jusqu'en haut ici aussi, à l'époque de Samson. Donc, ça se passe un peu en même temps. De chaque côté, il y a des ennemis qui leur donnent du fil à retordre et qui leur causent une grande détresse pour vous aider à vous situer. Et donc, quand il parle de passer la guerre, c'est un des endroits à traverser ici, le long du Jourdain, qui, selon les moments de l'année, sont plus dangereux, moins dangereux, des endroits pour traverser. Donc, juste pour vous situer. Lisons ensemble la fin de cette histoire un peu folle. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent. Ils partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés? » Chapitre 12, verset 1. Hein? « Appelés à marcher avec toi. Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » OK, on va s'arrêter ici un instant, là. On s'entend ici là, que ça commence mal une conversation quand tu viens de gagner un combat, puis qu'une tribu, puis on va voir plus tard, qu'on a appelé, elle n'est pas venue, puis là, elle fait la capricieuse, cette tribu-là est un peu plus importante, puis là, puis là, elle te menace de mort. OK. Mais là, ici, les fils d'Éphraïm, ils ont quelques situations comme ça. Avec Gédéon, ils ont fait la même affaire au chapitre 8. Puis Gédéon a fait, hey, écoutez, là, ce que j'ai fait, c'est tellement à côté, petit à côté de vous autres. Il a parlé doucement, puis il a apaisé leur colère, puis ça s'est arrêté là. Ils ont fait la même chose aussi, ils ont gossé avec Josué au chapitre, j'oublie, au milieu du livre de Josué. Là. Ils ont gossé aussi, Josué était doux, il était gentil. Mais attention, là, tu es en train d'écœurer Jephthé, le fils de pute. Lui, il ne traite pas de la même façon. T'écœures pas un gars comme ça de la même façon. Quand tu as un beau leader spirituel, un homme doux, un homme sage, tu vas peut-être t'en tirer, mais quand tu fais des menaces à un homme de même, il n'y a pas la même moralité, là. Vous me suivez? Attention qui tu menaces. que tu vas être impulsif avec tes paroles. Il ne sera pas toujours un bon chrétien devant toi à bien répondre gentiment pour calmer la fureur, comme les proverbes disent, pour avoir une parole pour éviter la guerre. Et lui, tu ne fais pas ça avec lui. Fait, qu'est-ce qui se passe? Jephthé leur répondit, « Nous avons eu une grande contestation, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon, et quand vous avez appelé, vous n'avez pas délivré de votre main, on vous a fait un appel, vous n'êtes pas venu nous aider, là. Vous êtes laissé nous arranger avec nos troupes l'autre bord de la rivière, parce qu'évidemment, on est l'autre bord de la rivière, et qu'on n'est pas bien important, ça arrive sud. Non, ça arrive ouest, excusez-moi. Ça arrive est, non, ça va pas bien, là. Hein, les différents géographiques, puis là, tout à coup, on traverse le... Puis là, arrangez-vous vos problèmes, là, tout à coup. Mais là, après ça, vous venez, puis là, vous demandez comment ça, là, on n'a pas eu de place dans tout ça. Voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie, j'ai marché contre les fils d'Israël. L'Éternel a donné dans mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? C'est quoi votre problème? C'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas d'allure. Jephthé rassembla les hommes de Galaad et livra une bataille contre Éphraïm. OK, une tribu contre une autre tribu. On est tendu une guerre civile. On vient d'avoir une victoire, puis parce qu'il y a des gens impulsifs qui s'insultent l'un l'autre, parce qu'évidemment, quand il y a une décadence spirituelle, que les gens ont descendu dans leur moralité, vous savez qu'est-ce qui arrive? Quand il y en a un qui ne veut plus raisonner, confesser, puis là, il ne raisonne plus, qu'est-ce qu'on fait pour garder notre position? On devient violent. La violence, souvent, est engendrée par le fait que je ne veux pas reconnaître mon tort, je ne veux pas demander pardon, je ne veux pas raisonner avec ma faiblesse. Et là, pour protéger mon orgueil, j'use la violence pour imposer à l'autre mon caractère, mon droit, ma vérité à moi. C'est de là qu'est engendrée la violence. Et là, finalement, ils battirent. Excusez-moi, juste un instant. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient, « Vous êtes des fugitifs, vous êtes des rescapés, vous êtes des restants, dans le fond, d'Éphraïm. » Parce qu'il y a ceux qui étaient attribués de l'autre bord, des descendants, toutes les deux, par Manassé de Joseph. « Vous êtes de nos restants, l'autre bord. Vous êtes des gens, des fuyards qui étaient avec nous autres. » Ils ont méprisé, littéralement. Galaad est au milieu d'Éphraïm et au milieu de Manassé. Galaad s'empara des guets de Jourdain, donc elle a pris les voies de passage. Et quand les fuyards, là, c'est eux autres qui deviennent les fuyards. Ils disent, vous êtes des fuyards, vous êtes juste des rescapés. Mais là, c'est eux autres, les Éphraïmites, qui deviennent des rescapés, qui veulent se sauver un à un et traverser la guet. Et là, il dit, quand un homme voulait traverser, il lui demandait, est-ce que tu es Éphraïmite? Il dit, non, je ne suis pas Éphraïmite. Alors, il disait, eh bien, dis Chiboulette. Chiboulette, bang, t'es mort. Parce que eux autres disaient Chiboulette. Mais eux autres disaient « Ciboulette ». Puis ils savaient tout de suite, c'est sûr, ils sont tous pareils, ils ont tous cet accent-là. Et là, sur ce coup-là, ils n'ont pas tiré une balle, évidemment, vous comprenez, ils ont sorti l'épée. Et ils en ont massacré comme ça combien? Ouf! Là, tout à coup, le gars qui a offert sa fille en sacrifice, ça veut dire que ça paraît moins pire. C'est-tu moins pire? Alors, on est rendu là qu'on se questionne si c'est moins pire, une affaire pire que l'autre pire, parce que là, on est en train de juger le mal, puis le mal. Et là, tout à coup, on considère certaines affaires moins pires que d'autres. Vous voyez où on est rendu? Qu'est-ce qui était pire? Les deux, ça n'avait pas d'allure. Mais c'est ça que tu as quand tu as un dirigeant comme ça. Et tu sais, dans tout ça, la réponse et tout ce qui se passe ici, là, on voit comment ça n'a pas d'allure. Il a la méthode linguistique pour finalement trouver les personnes qui sont fautifs et qui sont éphraïmites. Il y en a 42 000 qui vont... Donc, ça veut dire une majorité des hommes de cette tribu-là ont été exterminés pendant le temps des juges. C'est gros. Les descendants de Joseph, c'était une des tribus en vue, dominante. Même on va appeler la région du Nord souvent Éphraïm au lieu d'Israël à un moment donné. Tellement qu'ils sont importants, les fils d'Éphraïm. C'est un récit qui est une bonne illustration du problème d'orgueil et ses conséquences. Et la Bible nous donne plusieurs références. Je vous ai mentionné juste là ici sur comment l'orgueil précède la chute. Et que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et ils ont récolté ici dans leur folie. Ils ont récolté dans leur folie tout simplement. Une leçon, une illustration ici d'un principe tellement évident. Et sans compter les proverbes sur la guerre, d'éviter la guerre. Bien, les deux, il n'y a pas un qui était plus fin que l'un que l'autre. Les leaders orgueilleux, puis cet homme-là orgueilleux. Il n'y en a pas un qui a utilisé une parole pour calmer la fureur puis éviter la guerre, mais pas du tout. Et là ici, avant de terminer, je vous rappelle ces quatre vérités, ces mutations-là. Je vous mentionne une dernière dans notre société. Ça fait partie de ma conclusion, ce point-là, puis un dernier. Vous savez, on est en train d'explorer à travers ça, on vit dans un monde chaotique. Les valeurs ont changé. Cet homme-là, avec ses valeurs, amène des choix particuliers. On s'entend. Et on a mentionné déjà comment l'intuition morale naturelle a changé. On a mentionné aussi comment la définition de la sexualité a changé, la définition du mariage. On a vu aussi l'anthropologie humaine a changé. Là, maintenant, on voit l'être humain et sa définition d'être humain. Et la dernière, c'est les minorités ont augmenté en taille et représentativité. Je lui dis, mais pourquoi tu... C'est quoi le rapport? Je vous explique. C'est-à-dire que certaines personnes dans notre société ont plus le droit de parler que d'autres dans notre société. Et pourquoi? Parce que certaines personnes sont opprimées et on valorise les gens qui sont opprimés. Et sur la base de leur oppression, ils méritent qu'on les écoute davantage parce qu'ils subissent et vivent des choses difficiles. Et donc, aujourd'hui, si tu es, par exemple, gay, une minorité, mais dont la minorité a grossi, tu es en plus noir, là, tu as deux aspects où tu es minoritaire, ça augmente qu'on devrait t'écouter encore deux fois plus. Et là, ici, je ne suis pas en train de donner un mépris, je fais ici un constat sur comment les minorités ont grossi et ces gens-là en minorité, qui ont grossi, doivent être entendus parce qu'ils vivent des choses difficiles. Et là, on fait une attrition aussi, donc, de ces minorités-là. Fait que là, c'est ça, plus ça, plus ça. Hey, là, cette personne-là doit être entendue. Peu importe ses valeurs morales, qu'elle ait raison ou pas, dans les valeurs ici, c'est ce qui se passe. Et je ne vous dis pas ça pour être choquant, c'est un constat public qu'on fait. Qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas le lieu ici. C'est un constat qui se passe dans notre société. Il y a une évolution au niveau de ce niveau-là. Et donc, il y a une sorte de surcompensation que ceux qui ont été maltraités dans le passé, il faut les entendre deux fois, trois fois, quatre fois plus parce qu'ils ont été maltraités dans le passé, pour éviter de refaire la même erreur. Vous me suivez la logique, n'est-ce pas? Il y a un désir de bien faire. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on surestime des gens et là, on met une valeur vraiment importante sur cette catégorie-là de gens. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas ça l'enjeu. Et ça, c'est une mutation importante qui se fait dans notre société. Et plus encore, si tu as une opinion contre cette personne-là, qui est une minorité dont l'importance a été grossie, une opinion contraire est une menace. Il n'y a plus de place vraiment pour le dialogue, pour argumenter sur une base logique, de raisonnement, sur une base de référence, sur des études, sur des études faites par les scientifiques en psychologie ou autre. Non. Si tu as une opinion différente de l'opinion proclamée, tu es une menace. Et il n'y a pas de place pour le dialogue à ce niveau-là parce que c'est dangereux. Parce que cette minorité-là pourrait se faire mettre encore en échec, en danger de revivre ce qu'elle vivait dans le passé. Vous me suivez? Et donc, pas de place pour dialoguer parce qu'on a peur de retomber dans ces mêmes problèmes-là. Et là, on est pris dans un mouvement de quelque chose de bien et de quelque chose de mal, mélangé tout ensemble, et ça fait toute une confusion. Et là, toutes sortes de mouvements commencent pour répondre à ça, pour appuyer ça. Et là, on vient tout mélanger, et même l'Église devient comme, « Ah, tu peux, là, sur quel pied je danse avec cette affaire-là? Si je suis contre, ça veut dire que je suis contre cette personne-là? Que je suis pour ce qu'elle a vécu dans le passé? Ben non. Mais si tu dis que tu es contre, c'est ça qu'on va comprendre. » Parce que là, il y a une sorte de déformation, de raisonnement qui se passe dans tout ça. Mais voici la réponse. La réponse, vous savez, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus était une minorité. Vous voulez parler de minorité? Un Juif opprimé par les Romains. C'est deux affaires grosses. T'es Juif, puis en plus, t'es dominé par des gens qui t'ont forcé la main. Et en plus, une vraie victime, il est jugé par les gens, il est rejeté par les gens de religion, donc méprisé au niveau racial, méprisé au niveau de la domination mondiale d'un être qui écrase les gens. Au niveau religieux également, on le méprise et on va jusqu'à le tuer comme innocent. Il ne peut pas y avoir plus innocent, plus minorité et attrition de minorité que Jésus lui-même, le seul humain à avoir marché sur cette terre dans la perfection. Lui-même a écouté en plus les opprimés et les minorités de sa société, puis il les a défendus. Voilà pourquoi Jésus mérite d'être écouté. Il est l'ultime de tout ce qu'on peut valoriser à ce niveau-là. Jésus est la réponse à tout cela. Sa voix est unique et elle a une valeur morale incalculable et incomparable dans toutes ces voies distorsionnées. On doit ramener à Jésus. Vous suivez? Comment on termine tout ça? Quatrième leçon, attention, tous les combats ne valent pas la peine dans cette génération chaotique. Il y a tellement de combats avec lesquels vous pouvez être distrait comme chrétien, de bien et de mal, dans lesquels on peut s'enliser littéralement. Choisissons bien nos combats. Qui et quoi avec sagesse de Dieu? Le monde nous offre actuellement une panoplie de sujets, de contestations, de débats dans lesquels on peut s'embarquer et tomber dans des sables mouvants et perdre de vue ce qui est notre mission numéro un. C'est quoi? Apporter l'Évangile. C'est ça qui va sauver les gens. C'est pas d'avoir raison sur un débat. C'est pas d'avoir porté les bonnes pancartes devant le Parlement. C'est pas d'avoir défendu les bonnes minorités. Même si toutes ces choses-là pourraient être à leur place, bien, c'est l'Évangile qui change chaque vie puis qui nous amène à grandir, à partager cette foi-là. Puis une fois qu'on l'a reçu, de servir. C'est pas pour rien que c'est là le GPS. Ça passe par l'Évangile. Sans l'Évangile, toutes ces causes-là perdent leur sens et sont des coups d'épée dans un monde qui s'enlise. Et les gens vont tomber en dépression, se sentir attaqués parce qu'ils ne se sentent pas appuyés dans quelque chose qui leur cause, ils s'enlisent dedans, ils perdent de vue les chrétiens autour d'eux, ils commencent à être tellement pris dans cette cause-là qu'ils ont oublié que hey, je fais partie de l'Église, je fais partie du corps de Christ, c'est l'Évangile qui va sauver les gens. Est-ce que je suis en train de m'enliser dans quelque chose qui n'est pas le bon combat? Combattons le bon combat. Ne se faisons pas se prendre par ce combat de contestation. Voici ce que Jésus a dit face à la mission. Voici, je vous envoie, comme des brebis au milieu des loups, donc vulnérables, soyez prudents, avisés comme des serpents, simples, purs, donc, comme des colombes. On est appelé à utiliser notre tête, notre esprit, l'Esprit Saint, et à être vigilants pour ne pas se faire avoir. Tout est là pour nous enliser. Ne nous laissons pas embarquer. Et le proverbe dit ceci sur l'orgueil. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit le sang, et la pression de la colère produit des querelles. Prions ensemble. Seigneur, ta parole a été lue. Nous y avons porté attention, Seigneur. On te demande de parler à nos cœurs. Des leçons ont été notées, Seigneur. Mais que veux-tu me dire ce matin? On le fait le lien, Seigneur, entre le passé et le présent et les tensions qu'on vit. Les querelles bien réelles, les dangers, les fossés qui nous guettent. Seigneur, on a besoin de ton esprit plus que jamais. J'ai besoin de ton esprit pour me conduire. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à mon secours ce matin avec mon combat, mes doutes, mes questions ce matin. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Où est-ce que tu cognes sur mon cœur ce matin? Nous avons besoin de toi. Change ce que tu veux changer, Seigneur, ce matin. Transforme. Donne-moi le courage de prendre la décision de vivre avec ce que tu mets sur mon cœur de faire. J'ai besoin de toi ce matin, plus que jamais. J'ai de la misère à entendre ta voix au milieu de toutes les voix autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à entendre la voix du berger. Je suis ta brebis, je devrais la distinguer parmi toutes les voix, et parfois je me mélange dans toutes ces voix. Aide-moi à distinguer celle qui est mon berger, pas celle de mon cœur, pas celle de l'agenda des autres, pas celle de l'agenda du monde, pas celle des pressions autour de moi, mais ta voix, la voix du bon berger, de mon berger Jésus, du Créateur de l'univers. Qu'est-ce que tu veux de moi ce matin? Conduis-moi, s'il vous plaît. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus.